L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bon week-end à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous comme chaque samedi 16h-18h. C'est l'heure de votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies et à l'économie numérique. C'est l'atelier numérique et je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de l'atelier. Autour de cette table, Lila Megraoua, tout à l'heure nous retrouverons Rorge Géraud, Antoine Cyr sera là pour le crash test et pour sa sélection de cyber gadgets. Jean de Chambure depuis l'Asie viendra nous rendre visite aussi. Nous aurons même droit à une interview très intéressante réalisée par Romain Chaperon sur l'automobile qui s'invente aujourd'hui dans la Silicon Valley. Et puis Éric Le Bourlou de la rédaction de Zeronet.com nous rejoindra tout à l'heure. Avec lui, on reviendra entre autres sur les annonces Apple de cette semaine. Un vrai phénomène de société que les annonces d'Apple chaque année. Alors, à quoi ressemblent ces nouveaux iPhones? Quelles sont les autres nouveautés qu'Apple a annoncées? Il y a quelques jours, on verra ça avec Éric Le Bourlou. Soyez les bienvenus. Au menu donc de ces deux heures, tout à l'heure le Silicon Carnet, le cybergadget d'Antoine, notre enquête de l'atelier avec Lila et nos invités, on s'intéressera au Smart Village. Et oui, on a beaucoup parlé Lila de Smart Cities, Eh bien à une échelle encore plus réduite, on peut avoir l'intelligence dans les villages.
Et cette vision est par ailleurs très différente de ce qu'on connaît de la vision Smart City.
Évidemment. Oui, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes et les besoins non plus. Notre web stratégie sera consacrée à Facebook, aux startups et au mobile. C'est vrai que l'histoire d'amour entre Facebook et les startups s'écrit avec le mobile. Julien Le Sécher, qui est responsable plateforme mobile en fait, chez Facebook, sera avec nous. On jettera aussi un œil aux robots. On poursuivra notre saga robot avec Lila et notre invité. On verra si demain, et à mon avis c'est un lointain demain, est-ce que demain, les robots pourront avoir une âme?
Aha! Avoir une conscience.
On verra ça avec un spécialiste de l'intelligence artificielle et philosophe. Notre World Tour, bien évidemment, la rédaction de Zeronet.com et le crash test. Voilà, vous savez tout. Soyez les bienvenus. C'est parti pour l'atelier numérique. Et on salue aussi Guillaume Renoir qui est avec nous depuis San Francisco. Salut Guillaume.
Bonjour François.
Eh bien Guillaume, vous savez quoi? Puisque vous avez le micro, vous le gardez. On écoute attentivement votre news depuis la Silicon Valley.
Eh bien, très volontiers. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, ici, donc, aux États-Unis, la food tech, l'innovation dans l'alimentaire, est en pleine expansion. Les startups, d'abord, qui proposent de livrer des plats ou des produits frais, se multiplient, à tel point que certains grands noms se lancent également sur le marché. On a Uber, qui vient d'ouvrir son service Uber Eats, qui propose de livrer des plats pour des restaurants. Amazon également, qui s'est lancé sur le marché récemment avec Amazon Fresh, qui fonctionne pour le moment à New York, San Francisco, Seattle et Los Angeles. Et pas plus tard qu'hier, un nouvel entrant, et non des moindres, a annoncé son arrivée sur le marché. C'est en effet Google, qui a annoncé que son service Google Express, qui donc propose déjà un service de livraison de marchandises, va se lancer dans la livraison de produits frais, fruits et légumes inclus. Alors il sera notamment en partenariat avec les supermarchés Whole Foods et Costco, qui sont donc deux grandes enseignes locales. Et les camions piocheront leurs marchandises directement dans les magasins plutôt qu'auprès des entrepôts, ce que fait par exemple déjà la start-up Postmate. Voilà. Et donc les consommateurs auront le choix au niveau du modèle entre payer des frais de livraison à chaque commande ou opter pour une souscription mensuelle ou annuelle qui permettra de ne pas payer de frais de livraison.
Ouais, un petit peu comme Amazon Premium qui propose un service un peu VIP, moyennant voilà, une cotisation annuelle. Intéressant, hein? Alors c'est rigolo parce que ce sujet est complètement en fait inexistant en France. Hein, tous ces géants, en fait, on le voit, testent ces services aux États-Unis, attendent de voir comment ça fonctionne pour peut-être après le dupliquer dans d'autres pays, parce qu'en France, on n'a pas ça, hein, Lila.
Bah, Aurore, en France, j'ai pas l'impression. On peut avoir le cas d'Evian avec sa Smart Drop où vous allez avoir la possibilité de recommander
oui,
des packs.
C'est une goutte connectée, c'est ça. Ouais.
Vous avez, mais après ça reste assez.
Oui, mais on n'est pas sur les produits frais en fait. Ouais. Là, la particularité, c'est les produits frais.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Sur Amazon Dash, il me semble, est arrivé en Allemagne, mais pas encore en France.
Bon, on va suivre ça de près. Aurore Géraud, une petite news.
Oui, bien sûr. Alors moi, je vais vous parler d'un wearable qui permet de détecter l'empreinte carbone, mais d'un individu unique. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir plein d'éléments de domotique qui vous renvoient sur votre smartphone combien tel ou tel objet électronique dépense. Là, ça sera vraiment ce que l'individu en lui-même dépense. Donc la technologie s'appelle Magnificence. Ça vient de l'Université de Washington. C'est un bracelet connecté qui est assez imposant d'ailleurs, parce que c'est encore à l'état de prototype. En fait, il va identifier la signature électromagnétique de tous les éléments que vous allez toucher. C'est-à-dire votre micro-ondes, vous allez allumer la lumière, vous allez même allumer votre voiture pour la démarrer. Tout ça va être détecté et va déterminer combien vous dépensez. Alors, le but, c'est à la fois...
On va se faire une dépression quand on aura le résultat.
Il y a tout à fait l'aspect écologique derrière, où on va vous dire, ah là, c'est pas bien, vous avez laissé allumer trop longtemps. Et vous, en particulier, dans le foyer,
vous êtes trop resté longtemps sous la douche.
Tout à fait. Mais il y aura aussi tout un aspect santé en fait pour les personnes âgées, pour voir si elles utilisent assez souvent ou non tel ou tel outil chez elles, et qui pourrait montrer qu'il y a une diminution des capacités en fait, tout simplement, ou alors qui pourrait même détecter si un objet était allumé mais jamais éteint et pouvoir prévenir en fait des risques d'accident.
Mmh. Voilà. Intéressant. Bon, à suivre, ça s'appelle Magnificence. Ouh là là. Lila.
Oui.
Alors.
Je vais être moins sérieuse, moins sérieuse, moins éco-responsable qu'Aurore. Je vais vous parler d'une espèce de miaou Google Maps.
Un miaou Google Maps?
Miaou. Ah, le Cat Street View. Je sais que ça va plaire à Aurore. En fait, c'est un peu pensé comme une espèce de Google Maps à hauteur de Matou.
Ouais.
Il s'agit concrètement d'une plateforme qui se rapproche de Google Street View et qui est pensée en fait pour découvrir une ville à hauteur de chat. Comme si vous étiez un chat.
D'accord.
Donc en fait, c'est.
Donc on va voir les pots d'échappement, les trucs comme ça.
Les pieds des gens.
Les pieds des gens.
Les crottes de chiens.
Les poussettes.
Les poussettes aussi.
Ouais, c'est sympa.
Les poussettes. Donc en fait, c'est une idée qui nous vient du Japon.
Ouais,
Watel.
C'est bizarre, on s'en doutait pas du tout.
De la préfecture d'Hiroshima, et qui en fait aimerait, via ce fameux Cat Street View, promouvoir sa région et surtout la ville d'Onomichi. Donc concrètement,
et non,
c'est
pas la ville d'Onomicha. Non, mais attention. Point à la fin.
Onomichi. Donc les utilisateurs se retrouvent donc au plus près du sol et de la ville. Et aujourd'hui, on est en mesure de vous montrer à hauteur de Matou à peu près une vingtaine d'endroits et de boutiques de la ville, évidemment. Et puis autre donnée qui est plutôt rigolote, Cat Street View en fait prend aussi des allures de jeu, puisqu'en fait vous avez 11 matous emblématiques de la ville qui sont dits un peu disséminés partout sur cette espèce de carte de Street View, et que vous pouvez sur lesquels vous pouvez tomber, étant
d'accord,
vous-même un matou.
Et oui, donc on sera au même niveau qu'eux.
Exactement.
C'est bouleversant d'originalité et ça va complètement changer notre quotidien.
Pourquoi pas, c'est une initiative d'e-tourisme.
Parfait, très bien. Aurore.
Moi, je reste dans l'éco-responsable, je suis pas drôle, désolée. Je suis pas sympa. Je vais parler d'une initiative qui vient de l'université de Leiden aux Pays-Bas, qui propose en fait du 1er au 15 septembre à des individus lambda, aux citoyens, de capter les particules atmosphériques dans l'atmosphère, via leur smartphone. Alors en fait, c'est un élément un petit peu crowdsourcé pour les scientifiques, c'est-à-dire qu'ils leur donnent un espèce de device qu'ils adaptent à leur smartphone, qui permet de capter quelles particules il y a dans une photo qu'ils vont prendre du ciel, et en fonction, vont analyser toutes les données. Alors le but, c'est que derrière, ils puissent faire une carte précise en Europe des particules, sachant que plein d'outils déjà utilisés n'atteignent pas les endroits précis.
Mmh.
Et en même temps, c'est un but assez sympa, puisque ça veut sensibiliser tout simplement le citoyen à ce qu'il y a dans l'atmosphère.
Ah, d'accord. D'où le côté éco-responsable.
Tout à fait.
Eh bien, dites-moi, ça rigole pas avec Aurore, hein. Là, je sais pas. Je pense qu'elle est habitée par une espèce de mission, là. C'est bien.
Ben, en même temps, elle a raison, parce que en cette année de COP 21.
Exactement.
Tout à fait.
Très bien. Lila.
C'est d'actu.
Moi, alors, je vais aller. Google Preview pour chien maintenant. Qu'est-ce que vous avez?
Je vais vous parler d'une maman robot.
Ah, voilà.
Comme c'est un peu ma marotte, c'est un peu notre marotte en ce moment à l'atelier numérique.
Notre saga robot.
Le robot.
On y reviendra tout à l'heure puisqu'on va se poser la question de savoir si demain le robot aura une âme, les amis.
Mais oui. Alors le robot pourrait apparemment engendrer.
C'est-à-dire faire des bébés.
Faire ses propres enfants. Alors jusque-là.
Je ne veux pas y assister, les amis. Je ne veux pas voir ça.
Alors donc cette idée d'un robot qui serait capable de se construire des enfants, alors forcément c'est pas nouveau, en soi le concept n'est pas nouveau, à savoir que concrètement ce robot qui a été conçu par des chercheurs de l'université de Cambridge serait capable d'assembler, ça correspondrait, cette fameuse maman robot serait une forme de robot assembleur, de modules actifs.
Oui.
En revanche, la nouveauté, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de savoir d'être en mesure de construire ses propres enfants, elle serait aussi capable d'apprendre de ses précédents enfants un peu ratés pour perfectionner les suivants. Donc, à savoir que ce robot maman...
Elle les élèvera, en fait. C'est ça ? Elle va les élever.
Ouais, les élèves, mais elle abandonne un peu, si vous voulez, les créations ratées pour perfectionner les suivantes. Alors comment elle fait ?
C'est horrible.
C'est assez horrible. Alors grâce à un algorithme développé par ces fameux chercheurs de Cambridge et de Zurich, donc le robot, imaginez, le robot enfant est conçu, il est mis en marche. Et en fait, ce robot maman, à l'aide d'une caméra, va être capable d'analyser sa capacité de mouvement.
D'accord.
Donc, elle peut retenir, analyser qu'est-ce qui va pas et optimiser son prochain bébé en apprenant des erreurs de l'autre.
D'accord.
L'autre raté.
C'est sympa.
Voilà.
Super. Bon, et maintenant notre vue d'Asie avec Jean de Chambure. Antoine, il est là, Jean. Enfin, il est là par la ligne téléphonique, c'est déjà bien.
C'est incroyable, il représente la puissance de la Chine, la magie de l'Orient.
Exactement.
L'ingéniosité des formidables entreprises
de
ce nouveau continent. Enfin, tout ça nous
est amené. Et depuis qu'il mange avec des baguettes, Jean a perdu quelques kilos, je crois. Il fallait quand même le signaler.
Il paraît qu'environ deux aliments sur trois ne finissent pas dans sa bouche.
Bonjour mon cher Jean.
Bonjour François, bonjour à vous, bonjour Antoine.
Bon alors Jean, on va retrouver notre vue d'Asie de cette semaine. Alors on connaissait bien le lotus bleu, hein. Mais alors maintenant, il y a aussi les fourmis bleues.
Exactement. Et les fourmis bleues, François, alors c'est vraiment une magnifique histoire d'entreprise. Je vous ai beaucoup parlé la semaine dernière de WeChat, de ce formidable outil de messagerie instantanée qui est quand même utilisé par 600 millions de Chinois. Eh bien, la fourmi bleue, c'est le succès, l'emblème du succès d'Alibaba. Alibaba, vous savez, c'est ce groupe qui est un immense groupe de commerce électronique en Chine. Eh bien, le succès de la fourmi bleue, c'est d'abord le succès de Taobao. Taobao, c'est le site fondateur, en fait, de Alibaba. Taobao, ça veut dire la recherche des traders sur le web. Ça a été créé en 2003. Et en l'espace de 5 ans, ils ont vraiment réussi, match contre match, à domicile en Chine, mais à gagner la bataille du leadership du marché contre eBay. Grâce à quoi ? Grâce à deux outils très intéressants, très chinois, mais vraiment dans la proximité digitale et commerciale des Chinois. C'est un outil qui s'appelle AliWeiWei. AliWeiWei, en fait, ou WangWang plus exactement, ça signifie...
La prononciation chinoise de Jean.
Ouais, la prononciation, Jean, il faut encore un peu travailler, hein.
Il y a encore un peu de boulot, je vous l'accorde.
Oui, mais bon, c'est bien déjà.
Pourtant, je vais répéter. Mais alors, AliWeiWei, ça veut dire, c'est un outil, si vous voulez, de messagerie instantanée à l'intérieur de ce site. Donc, ça permet aux Chinois qui souhaitent acheter eh bien, de se renseigner en direct avec le vendeur un peu plus sur le produit. Ça permet, et à des Chinois adorent ça, de négocier, de marchander. Et donc, c'est évidemment un outil d'usage qui a largement... fait que ce Taobao a dépassé très très clairement eBay. Donc ça, voilà l'histoire de Taobao, avec aussi, bien sûr, le tiers de confiance, un système de paiement qui s'appelle Alipay, qui marche aujourd'hui extraordinairement. Il y a 300 millions de Chinois qui l'utilisent, il y a 800 millions de transactions par jour, c'est-à-dire c'est 8 fois plus, par exemple, que PayPal, hein, donc c'est un outil extrêmement utilisé. Et alors, fort de ce succès Jack Ma dit, ben voilà, c'est la succès collectif, ce n'est pas moi, c'est vraiment vous, hein. C'est toujours une logique très très collective, communautaire, hein, au sens très très large d'ailleurs, qu'il y a en Chine, et il dit, c'est le succès des fourmis, nous sommes des fourmis, nous avons réussi, et à tous à créer un web communautaire qui marche extrêmement bien. Et donc du coup, fort de cette marque, ils ont créé aussi quelque chose qui s'appelle Ant Financial. Alors là, je vais écorcher maintenant l'anglais. Mais Ant Financial Service, donc c'est la fourmi des finances, la finance des fourmis plus exactement. Mais alors là, pour le coup, ça colle complètement à la marque parce qu'ils ont créé avec ce système-là un système de peer-to-peer, c'est-à-dire vraiment un système où les internautes peuvent prêter aux internautes. Il y a beaucoup de petits commerçants sur Alipay, et bien sur Taobao et Temal aussi, qui est notre site de Alibaba. Et bien en fait, ils se prêtent jusqu'à hauteur de 5 millions de yuan et ça marche très bien. Ils ont lancé même dans la foulée cette année une banque en ligne. Voilà, donc vraiment c'est un carton plein et c'est les fourmis bleues de Alibaba. Je ne savais pas s'il y avait cette enseigne, mais elle reflète totalement leur dimension collective du succès de notre cher Alibaba. Je vous en dirai encore un peu plus sur Alibaba la semaine prochaine parce qu'il y a énormément de choses à creuser sur ce.
Bien sûr, mais on pourrait faire une émission entière sur Alibaba, hein, Jean de Chambure, hein, ça c'est certain.
Sur le crocodile du Yangtze.
Merci beaucoup, Jean. Toutes nos amitiés depuis Paris. On retrouve Jean de Chambure, vous l'avez constaté, chaque samedi dans cet atelier numérique pour sa vue d'Asie. Vous restez avec nous, la suite de l'atelier dans un instant. Vous restez là, on est là dans une minute.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, notre focus start-up tout à l'heure. Et puis, juste après notre enquête de l'atelier, on va évoquer le Smart Village, les enjeux, les perspectives tout à l'heure avec Lila et nos invités. Mais avant de retrouver le cybergadget d'Antoine, notre Silicon Carnet, c'est Nathalie Doré qui nous le réalise depuis l'atelier de San Francisco. Nathalie.
Oui, François. Alors, cette semaine, j'aimerais partager avec vous une tendance qui se dessine ici aux États-Unis. C'est la montée en puissance du messaging. Vous savez, ces messageries électroniques telles que Facebook Messenger ou WhatsApp. Alors, beaucoup d'experts annoncent la mort de l'email, mais cela ne veut pas dire la mort des messageries. En effet, avec les jeunes générations qui textotent et chatent plus vite que leur ombre, le messaging a de beaux jours devant lui. La semaine dernière, WhatsApp a d'ailleurs atteint les 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Et il y a deux semaines, c'est LinkedIn qui a annoncé une importante refonte de son service de messagerie. Bref, tous les grands acteurs du digital déploient des moyens considérables pour développer l'audience de leur messagerie. Mais alors, pourquoi ces messageries sont-elles autant tendance? Comment évoluent-elles? Qu'allons-nous pouvoir y faire? Je vous propose un panorama complet sur ce sujet. Mais avant ça, avant de prédire comment on va utiliser ces messageries dans le futur, je vous propose de revenir quelques années en arrière pour comprendre sa genèse. Et en fait, il faut revenir plus de 10 ans en arrière avec le fameux concept de Web 2.0 qui a démocratisé le fait qu'Internet n'était plus top-down. C'est un espace où tout le monde peut s'exprimer, commenter, réagir, liker, comme vous le savez bien. Mais ce concept de réseau global, type Facebook ou Twitter, a cependant bien évolué. Et je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, mon fil d'actualité est désormais plus encombré par l'actualité que me remontent les médias que je suis ou bien encore par les messages des marques que j'aime, que par les photos de mes proches ou des petits mots de mes amis. Cette anecdote est le reflet d'une tendance de fond sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs sont désormais plus actifs sur les messageries, ces fonctionnalités qui permettent d'avoir des discussions en privé ou au sein d'un groupe restreint. Alors, ce basculement d'usage a très vite été compris par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. En 2014, il a dépensé près de 22 milliards de dollars pour acheter la start-up WhatsApp. À l'époque, d'ailleurs, ce montant faramineux était l'objet de nombreuses critiques. Et beaucoup d'experts s'interrogeaient sur la stratégie de Facebook. WhatsApp avait alors 450 millions d'utilisateurs, ce qui faisait que Facebook avait dépensé 42 dollars pour acquérir chaque abonné de WhatsApp qui n'utilisait que des services gratuits. Pourtant, un peu plus d'un an après, les critiques sont beaucoup moins virulentes, car la croissance de WhatsApp a été exceptionnelle. La marque comptabilise désormais 900 millions d'utilisateurs et surtout, WhatsApp se hisse à la 6e place des applications iOS les plus téléchargées au monde. Bon, à ce jour, tout est encore gratuit. Mais Mark Zuckerberg ne s'est pas contenté de racheter WhatsApp. Non. Dans la foulée de ce médiatique rachat, il a décidé de forcer ses mobinautes à télécharger Facebook Messenger pour continuer à utiliser ce service de chat. Le pari était osé. Créer une application en standalone et forcer son audience à l'utiliser, peu d'acteurs peuvent se le permettre. Mais Facebook l'a fait intelligemment avec une expérience utilisateur très très bonne. Sa stratégie a d'ailleurs été payante puisque Facebook Messenger compte désormais 600 millions d'utilisateurs actifs. Vous l'avez donc compris, l'audience est là sur les messageries et sa croissance est exponentielle. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose et que vous vous posez aussi certainement, c'est comment Facebook s'apprête à monétiser cette audience ? Alors, des éléments de réponse ont été apportés par Facebook en avril dernier lors de la conférence F8, sa fameuse conférence annuelle dédiée aux développeurs à laquelle nous avons participé. Et Mark Zuckerberg introduisait cette conférence en expliquant que Facebook était désormais une famille. Famille composée de la marque mère Facebook et de la marque très prometteuse Messenger, puisque cette dernière concentrait une bonne partie des annonces. Première annonce, Facebook elle a intégré dans Messenger une fonctionnalité de paiement. En cliquant tout simplement sur le signe dollar, les utilisateurs pourront échanger de l'argent. Deuxième annonce, Facebook s'apprête à ouvrir Messenger aux entreprises. Qu'elles soient petites, grandes ou moyennes, ces dernières pourront ainsi communiquer directement avec leurs prospects ou clients. Et on voit ainsi des premiers modèles économiques se dessiner sur les messageries. Alors, est-ce dire que les messageries vont signer l'arrêt de mort des réseaux sociaux d'antan ? On n'en est pas là. Mais c'est quand même une affaire à suivre, car les usages évoluent plutôt dans ce sens.
Merci beaucoup Nathalie Doré. Et on va tout de suite retrouver Antoine pour le Cyber Gadget. Antoine, avant de rentrer dans le détail de cette pilule un peu particulière dont vous allez nous vanter les mérites dans une minute, rappelons qu'on vous retrouve à la fin de cet atelier pour un crash test un peu étonnant qui vit sur Twitter.
Oui, il vit sur Twitter, c'est très étonnant. On voit surgir de plus en plus le mot et le hashtag, hein, c'est souvent un hashtag Camoulox.
Voilà, donc, alors au lit Camoulox, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un médicament ?
Non.
Non ?
En fait, c'est une. Alors, ça vient d'un jeu télévisé, mais sur Twitter, ouais. C'est en train de prendre un sens complètement différent de celui du jeu télévisé, ouais. Et c'est en train de devenir une espèce d'interjection qui traduit l'étonnement, mmh. Le n'importe quoi. Alors, évidemment, dans Camoulox, il y a l'idée de n'importe quoi parce que c'est là-dessus que repose mmh. Le jeu en question, qui est un jeu humoristique. Mais voilà. Bon, mais je veux pas.
Ah non. Déflorez pas notre voilà, notre exactement. Crash test, s'il exactement. Vous plaît, Antoine, qu'on retrouvera tout à l'heure. Pour l'instant, donc le Cyber Gadget avec cette pilule un peu bizarre.
Oui, en fait, c'est une pilule contre le mal du virtuel.
Oui, oui. J'attends la suite.
Ben oui. Ben, figurez-vous que donc c'est un médicament spécial qui a été fabriqué par un lab créatif qui s'appelle Party New York, et donc ça s'appelle le Virmo, et c'est la première pilule contre les maux sensoriels causés par le virtuel. Il faut avaler 2 capsules, 30 minutes avant vos expériences de 3D, vos expériences virtuelles. Ouais. Donc c'est surtout pour la réalité, c'est vraiment pour
oui,
la...
Oui, pour tous ceux qui mettent des masques, des choses comme ça, etc.
C'est pas,
oui, voilà. Si je vais sur le web,
je n'ai pas besoin de prendre deux pilules de Virmo avant d'aller surfer sur le web, surtout si vous y allez 1 heure par jour, quoi.
Oui, voilà c'est bon. Ça.
Donc.
En revanche. Je veux me transformer dans
le monde de Darth Vador.
Voilà, dans ces mondes virtuels. Voilà. Je prends cette pilule.
Oui. Et donc,
en fait, c'est un mer calme pour voilà, le masque. C'est
exactement. C'est alors, il est clair que ça peut faire sourire. En réalité, la réalité virtuelle peut causer des symptômes tels que maux de tête, vertiges, nausées, vomissements.
Bien sûr, évidemment.
C'est tout à fait compliqué. Et donc le mal du virtuel s'apparente en quelque sorte au mal des transports, alors même que dans les transports, il y a un déplacement physique, alors que là, il n'y a aucun déplacement physique. Enfin si, il y a un petit déplacement physique.
Mais
parce
pas
que,
énorme.
Mais qui est quand même pas énorme. Ouais. Et c'est évidemment la perception de mouvement qui crée le problème. Et comme ça repose sur une perception et pas sur une réalité, les médicaments habituels sont inefficaces. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le mal de mer sous votre casque à cause du mouvement que vous avez dans votre jeu virtuel. Mais comme c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement réel, les médicaments qui soignent le mal de mer sont cette fois inefficaces.
Ah oui.
D'accord. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc du coup, bah, les spécialistes de Virmo pensent que c'est une réponse efficace qui permet d'ailleurs de développer du coup les expériences immersives, hein, mmh. Parce que du point de vue des professionnels, des créateurs d'expériences immersives,
oui, pour eux c'est un vrai problème. Au bout d'un moment, ils ne peuvent plus jouer.
C'est absolument un vrai problème.
Vous testez leur jeu.
Donc ça y est, l'organisme a été enregistré par l'autorité américaine du médicament. Il a été validé, ouais. Et il est pour l'instant interdit au moins de 12 ans, pas en raison de ses dangers pour l'organisme, mais parce que justement le législateur américain a considéré qu'il n'était pas raisonnable mmh. d'encourager l'usage de la réalité virtuelle en dessous de cet âge.
Incroyable. Mais cela dit, aujourd'hui, les masques font de tels progrès techniques que bientôt, on n'aura plus cette sensation de nausée. J'en ai testé un à l'IFA, qui fait qu'il y a plus de temps de latence. C'est ça, en fait, qui donne cette sensation de nausée. Et techniquement, on arrive à pallier à ce problème technique. Merci beaucoup, Antoine. On revient dans un instant. La suite de l'atelier dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, ce sera notre enquête de l'atelier. On va parler du Smart Village avec Ilham Egraoua et nos invités. Mais auparavant, c'est notre focus start-up. Et comme chaque samedi, c'est avec Aurore Géraud.
Alors, je suis aujourd'hui avec Marguerite Guillet, qui est donc fondatrice de Funka Daily Chic. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom obscur, abstrait?
Alors, donc chez Funka Daily Chic, on s'empare des formidables atouts du jeu vidéo pour essayer de recréer du lien entre des organisations non marchandes et les 18-35 ans.
Donc du serious game pour les smart cities en soi.
Ah ouais, alors moi je préfère dire plutôt du jeu vidéo utile, parce que c'est vrai que serious game c'est très connoté formation professionnelle, voilà, c'est déjà bien spécifique à un secteur particulier. Alors que nous, vraiment, on essaie de solliciter les gens d'abord par le fun, donc d'abord par l'intermédiaire du jeu vidéo, pour ensuite essayer de les amener vers autre chose.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'initiatives que vous développez? Quels sont les sujets sur lesquels vous vous lancez?
Alors, les sujets sur lesquels on se lance, ils sont assez variés parce qu'ils sont ceux de nos clients. D'une manière générale, la plupart des jeux que l'on a fait traitent surtout sur des sujets de développement durable et plus spécifiquement d'écologie, de tri des déchets. Enfin, c'est vraiment des problématiques qui sont très opérationnelles, quoi, qui concernent un peu la vie de tous les jours d'une ville. Mais pas que. On va aussi traiter des sujets sur la citoyenneté, sur la mobilité douce. Voilà.
Vous avez choisi de prendre une cible 18-35, il me semble. Pourquoi cette cible?
Alors, en effet, c'est notre cœur de cible, même si de toute façon, quand on fait un jeu vidéo, par essence, ça parle à tout le monde. Mais c'est notre cœur de cible, et pourquoi? Tout simplement parce que les 18-35 ans, c'est des gens qui sont difficiles à capter. Et en l'occurrence, pour des collectivités de territoire, ça reste quand même une vraie problématique. Entre autres, parce qu'ils ont des supports qui sont souvent mal adaptés. Et puis parce que ben ça reste parfois difficile de les mobiliser sur des sujets qui sont pas toujours très sexy, comme par exemple, enfin je sais pas, je pense à Saint-Germain-en-Laye qui nous a missionné pour mettre en place un jeu sur la propreté de la ville. Donc voilà, l'idée c'est de dire ben les rues sont propres, il faut les conserver comme telles, parce que c'est agréable de se promener dans une ville avec des rues propres par exemple. Ça reste une problématique très basique, et en même temps ben il faut continuer à communiquer dessus et communiquer à une large population, pas que ceux qui vont lire le journal de la ville ou ceux qui vont aller sur le site internet. Voilà, mettre en place un système comme ça ludifié, ça permet aussi d'ouvrir le message à des gens qui passent un peu à côté en temps normal, quoi.
Oui, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous voyez de l'engagement?
Alors ça, c'est une vraie question. C'est tout le fond du problème. En l'occurrence, nous, quand on a fait donc nos premiers tests, on avait mis en place un jeu qui s'appelait Mama Run. Et l'idée, enfin en l'occurrence, le jeu, c'était une petite maman avec son landau qui était sur un trottoir, et ben il fallait qu'elle évite tous les obstacles. Et donc on a eu, donc sur ce jeu-là, 80% des gens sont allés jusqu'à la fin du jeu, et 35% des joueurs ont émis une réponse personnelle, parce que à l'intérieur du jeu, vous aviez la possibilité de mettre via un texte de champ libre voilà votre contribution. Et donc 35% de ces gens-là ont quand même eu on fait l'effort en fait de proposer quelque chose, et c'était vraiment riche.
Merci beaucoup Marguerite Guillet, donc de Funka Daily Chic.
Aurore Géraud, merci. Et place donc à notre enquête de l'atelier. On va s'intéresser aux Smart Villages et aux enjeux et perspectives de ces Smart Villages avec nos invités, Lila.
Mais oui, tout à fait, parce que vous savez, fin août dernier, on a eu 500 élus et acteurs du monde rural, avec Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, qui se sont réunis en Auvergne. On avait d'ailleurs déjà reçu plus ou moins le directeur innovation Auvergne, région hautement numérique. Donc en fait, cet événement appelé Ruralitique était là pour penser, réfléchir au Smart Village, au village de demain. On va revenir sur le concept qui, vous verrez, diffère quelque peu de celui de la Smart City. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir Bernard Chomeil. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bernard, vous êtes directeur des relations institutionnelles de Cofélie Ineo. Et Sébastien Cotte, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes président de Ruralitique. Alors dites-nous, messieurs, on va commencer par la définition. Un Smart Village, c'est quoi ?
Alors le Smart Village, c'est le village intelligent, comme son nom l'indique, qui se définit aussi par rapport à la Smart City. La Smart City, qu'est-ce qui restait aux ruraux ? Le Stupid Village ? Non. La Smart City, son job, c'est effectivement de résoudre tout un tas de problèmes de gestion des déchets, de transport, de sécurité, etc. Qu'on n'aurait pas, finalement, si les villes étaient moins grosses. Voilà. Donc, à un moment donné, on se pose la question de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, en France, tous les ans, il y a, depuis 4 ans, 70 000 personnes qui font le chemin campagne-ville contre 100 000 qui font l'inverse, qui quittent les villes pour aller à la campagne. Donc, on peut pas encore parler d'exode urbain, mais il se trouve que c'est une tendance de fond, et c'est pas que des retraités qui vont sur les terres de leur enfance. Non, majoritairement, c'est des jeunes actifs avec enfants qui aspirent à un autre mode de vie.
Donc, pour les séduire, il faut que ces villages évoluent aussi.
Absolument.
Et qu'il y ait la capacité de les accueillir dans de bonnes conditions.
Voilà, il s'agit presque plus de créer l'attractivité, il s'agit d'être en mesure d'accueillir dans des bonnes conditions ces nouvelles familles qui sont habituées à des commodités numériques et qui partent du principe qu'elles peuvent maintenant, grâce au numérique, choisir où elles vont vivre.
Premier débat, j'imagine, c'est la fibre optique, non ? C'est
absolument.
Le très haut débit ?
Absolument.
Enfin,
C'est l'accès.
Il y a le débit des villes et le bas débit des champs, malheureusement.
Alors ça s'améliore.
Ça s'améliore.
Très nettement, grâce au programme national très haut débit.
Où s'en est cette histoire de connectivité très haut débit dans les zones rurales ?
Alors aujourd'hui, ça fonctionne selon un schéma qui passe par la mission très haut débit, par des systèmes de financement de l'ARCEP, etc. Mais aujourd'hui, il y a déjà 20 départements, pour le dire rapidement, qui ont déjà déclenché les financements d'État pour accomplir leur déploiement du très haut débit. Le village de Vic-sur-Serre, qui est à 5 km du château de Vic-Sous, où on a fait Ruralitique dans le Cantal, il a été fibré en deux temps. En juillet dernier, il était fibré à 50%, et maintenant, il est fibré à 100%. Donc, en réalité, ça va plus vite qu'on ne l'imagine, mais c'est discret, parce que ça passe par un schéma, par un système qui est un peu long.
Et puis, ça prend du temps, parce que
l'horizon, c'est 2022.
Là, il faut creuser des tranchées, passer des câbles à l'intérieur, et puis il faut trouver l'argent. L'argent, il est où, là ? C'est qui paye ?
Il y a trois payeurs. Il y a l'État pour 30%, pour un tiers. Il y a les collectivités locales pour un tiers et les opérateurs
pour l'autre tiers.
Titulaires, effectivement, des délégations de services publics, etc.
D'accord.
Bernard Chomeil, Cofélie Ineo participe à ce mouvement. Je vais poser la question un peu candidement. Ce village, concrètement, ça veut dire qu'il va être bardé de capteurs. Comment Cofélie, dans quelle mesure Cofélie Ineo s'inscrit dans ce mouvement-là ? C'est via l'installation de capteurs, de gestion énergétique ?
Alors Cofélie Ineo a déjà un ancrage territorial extrêmement fort, puisqu'on a un déploiement de 300 agences à travers le territoire. Et déjà depuis 10 ans, en fait, sans le savoir, les villages sont déjà bourrés de capteurs. On installe de l'éclairage public, on installe de la vidéoprotection, on installe des bornes de pour la mobilité, on installe des capteurs au sein des bâtiments. Donc les villages sont déjà aujourd'hui des villages qui sont déjà très intelligents, parce qu'ils ont déjà la matière grise. Donc l'idée pour nous, c'est d'accompagner et de co-construire avec le village pour effectivement mettre en place... On dit souvent qu'on est créateur de données, voilà, en fait. Et cette multitude de capteurs, c'est de la donnée qu'il faut utiliser sur mesure et qu'on construit, nous, avec effectivement les usages et les villages, et les villageois et les élus.
Et donc, à partir de ces données, quel type de services vont pouvoir émerger ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une espèce de modèle réplicable dans tout village ? Pareil, je pose la question de manière candide.
Alors, on a envie de dire non, surtout pas, parce que justement, les trois principes du Smart Village, c'est d'abord une gouvernance participative. C'est le fait qu'on construit le territoire ensemble. Et l'élu, il est plus chef de village, il est animateur de territoire. Il fait émerger les talents, il met les gens autour de la table, parce que sur cette petite échelle, c'est possible. Et il va créer les communautés physiques et en ligne qui vont permettre de définir le projet de territoire. Ensuite, c'est la sobriété du territoire, et notamment avec des acteurs comme Cofili Ineo. Voilà, aujourd'hui, il y a un tiers de l'eau qui passe dans les réseaux publics part en fuite. Concernant la gestion de l'énergie, du gaz ou de l'électricité, c'est également assez catastrophique. Donc là, il y a
un gaspillage, en fait.
Un gaspillage considérable. Incroyable. Et là, la sobriété du territoire fait partie du manifeste des Smart Villages. Et le troisième point, c'est la libération des talents individuels. C'est-à-dire pour se former à distance, pour avoir une école connectée qui permette d'accéder à la connaissance à l'étranger, etc., pour favoriser l'entrepreneuriat local. Voilà, tout ça, ce sont les pistes. Alors, pour parler de services, on va effectivement aller aussi vers de la e-santé, on va aller sur de la téléformation, on va aller sur de l'e-éducation. Voilà, et tout ce que les gens vont exprimer dans le projet de territoire. La clé, c'est ça. Et le modèle, du coup, il n'y en a pas, parce que s'il y en avait un, on serait dans le clé en main, comme sur les Smart City, où quelque part, Nice, on a une ville IBM, Lyon, on a une ville Toshiba, pardon de le dire comme ça, ou Songdo, on a une ville Cisco. Voilà.
D'accord.
Mais là, l'idée, ce serait d'avoir un village... pas multi-entreprise, mais concrètement, ça va se présenter comment chaque collectivité locale, est-ce qu'elle va faire un appel d'offres, j'aimerais devenir smart. Comment ça se passe concrètement, Bernard?
Nous, on accompagne en fait les villages dans cette co-construction. Et puis, on parle surtout des usages, et donc c'est au regard de la problématique du village ou du territoire que va ressortir de nouveaux usages. Donc ils vont avoir besoin, à un moment donné, faire des économies effectivement au niveau énergie, mais ils pourront avoir un problème de mobilité. Donc je crois que c'est vraiment du sur-mesure, et Cofili Ineo, en tout cas le groupe Engie, on n'est pas du tout dans une vision d'imposer notre modèle, mais de vraiment co-construire avec les élus au fur et à mesure. Alors c'est pour ça qu'effectivement, rien n'est écrit, tout s'écrit aujourd'hui. Et je crois qu'on doit laisser réellement les citoyens des villes, des villages et les élus d'être maîtres de leur transition numérique. En fait, c'est ça notre objectif. Tout, comme on est présent depuis longtemps sur le territoire, on les accompagne tout simplement.
Est-ce qu'au final, votre slogan, ça pourrait pas être « Vive l'innovation technologique au profit de l'innovation d'usage » Moi, c'est ce que je comprends de
votre
discours.
Oui, la technologie a vocation à être transparente. Il s'agit pas, comme dans notre smartphone, je veux dire, il y a un million de choses qu'on peut faire avec, on va en utiliser 10%. Donc, on n'a pas besoin de ce genre de couteau suisse. On a besoin d'abord de partir des gens. Le territoire, c'est l'addition des individus. Et comme disait l'autre, il n'est de richesse que d'hommes. Et c'est l'addition de ces talents et ce qui va en sortir que le numérique permet de catalyser. C'est-à-dire que c'est très facile de fabriquer du collectif, c'est très facile de fabriquer de l'entrepreneuriat avec le numérique. Et ça change complètement la manière de faire de la politique. Aujourd'hui, comme le réseau Internet par rapport à des structures hyper centralisées, ça a été une galaxie, ARPANET le premier, on réduisait le risque en diffractant tout ça. Et aujourd'hui, le pouvoir, il est au local, on est sur le bottom-up, et comme le disait Claudie Le Breton, l'ancien président de l'ADF, plus rien pour moi, sans moi.
D'accord. Que disent les maires des villages? Parce que c'est quand même à eux qu'il faut poser la question. Alors même si vous dites que voilà, ils sont c'est eux qui vont stimuler tout ça, on peut imaginer que certains, parce qu'ils sont d'une autre génération, parce qu'ils sont pas sensibilisés par tout ça, ne comprennent pas les enjeux, ou moins. Comment réagissent-ils?
Même après 10 ans de Ruralitique, ça reste compliqué. Mais on avait fait un sondage lors de Ruralitique 2011, et ce qui était sorti, c'est qu'est-ce qui était prioritaire pour vous? La santé, l'éducation, la formation, l'emploi, etc. Ce qui était sorti, c'était d'avoir le haut et le très haut débit. 95%. Un truc, on s'est dit, mais c'est un plébiscite cubain, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on les a rappelés derrière, il y a 2000 maires ruraux qui ont répondu là-dessus, et on leur a dit, mais bon, pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est sympa, c'est un sondage ruralitique, c'est gentil, mais vous étiez pas obligés. Mais ils nous ont dit, mais non, c'est pas compliqué. C'est que si on a le haut, le très haut débit, on va avoir de l'éducation, on va pouvoir maintenir l'école, on va avoir de la formation, on va avoir de la santé, on va avoir des services publics.
Ça va dynamiser aussi l'économie du village, etc.
Voilà,
parce que
donc,
les gens...
Ils ont percuté, et le frein générationnel, en réalité, il y a des jeunes maires qui sont beaucoup plus réfractaires que des plus anciens.
Oui, et puis surtout, on répond à une demande des citoyens. Et pour un maire, c'est quand même important de faire plaisir à ses citoyens, on est d'accord. Parce qu'après, il y a des enjeux, des enjeux politiques derrière.
Absolument.
Tout ça.
Tout à fait.
Moi, je me posais la question par rapport à l'essor... on peut dire que les modèles traditionnels du travail sont quand même en train d'être redessinés avec notamment l'économie collaborative, le freelancing, le télétravail. Est-ce qu'on pourrait pas dire que les zones rurales bénéficient de ce boom-là, de ce nomadisme, cette mobilité, flexibilité?
À 100%. Et le Cantal est un exemple. Vincent Descoeur, le président du Cantal, il a mis en place le programme Cybercantal en 98. Et sa première action a été d'ouvrir des télécentres. Et aujourd'hui, il y a de nombreux télécentres qui ouvrent chaque jour en France, y compris des tiers-lieux. C'est une version étendue où on met plus de choses que simplement dans un télécentre. Mais ils s'en ouvrent tous les jours. Et ça répond partiellement aussi à des questions de mobilité que traite par ailleurs Bernard.
Bernard, sur le sujet.
Sur le sujet, effectivement, ça permet de... Aujourd'hui, on peut imaginer la mobilité d'une manière complètement différente. On a à disposition dans les villages une multitude de véhicules. Donc, on n'est pas obligé d'imaginer des transports lourds, mais grâce effectivement aux capteurs, grâce aujourd'hui aux nouvelles applications, on peut mettre en place une mobilité au service de tous, bien évidemment. Donc, ça permet de faire éclore tout un tas de choses. Ça permet de faire éclore l'économie, ça permet de faire éclore des gens qui ont envie d'y rester dans ces villages, ou beaucoup qui ont envie d'y revenir, bien évidemment. Et puis, on a toute une génération de nouveaux retraités qui, effectivement, sont habitués à un certain nombre de nouvelles technologies et qui aujourd'hui partent pour vivre une vie complètement différente sans se déconnecter du monde, en fait, du monde numérique. Et puis le monde numérique, il n'y a plus de frontières.
Oui, non, allez-y, Lila.
Est-ce que demain, partons loin, on ne pourrait pas imaginer ce Smart Village comme l'accélérateur de start-up ultime?
Oui, parce qu'il est basé sur la détection des talents. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de facile. À un moment donné, le maire, il connaît un certain nombre de gens. Et il n'imagine pas les talents qu'il peut y avoir cachés derrière. Et qu'est-ce que c'est qu'une start-up ? À un moment donné, c'est un talent qui se détecte. Et qu'on met ensuite dans un scénario pour l'aider à s'épanouir, à grandir. Et donc, tout ce qui est basé sur ça, aujourd'hui fonctionne. Et des talents, il y en a dans les territoires. Axel Lemaire, quand elle est venue sur Ruralitique, donc la semaine dernière, elle a juste été bluffée par l'énergie rurale, par le fait que, elle est allée visiter une start-up, qui s'appelle Pobrun à Vic-sur-Serre. Imagine pas deux secondes, au fin fond du Carladès. Et elle a vu des gars qui sont béton sur la fabrication 3D, qui sont béton sur le management de serveurs et l'hébergement. Enfin, on a aussi fait intervenir un jeune homme de 16 ans qui a créé sa boîte à 13 ans à Aurillac. Il fait de la gestion de serveurs, de l'hébergement de sites. Voilà, enfin, on n'imagine pas la richesse sur laquelle on est assis dans les territoires ruraux.
Eh bien, merci. On va se donner rendez-vous dans quelques années pour voir si effectivement il y a de plus en plus de villages comme ça intelligents. Espérons-le, en tout cas.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous. Bon week-end sur BFM Business, atelier numérique. 16h-18h, vous le savez, chaque samedi. Tout à l'heure, on va parler de robots autonomes. Le robot aura-t-il une âme demain? Ce sera la question qu'on posera à notre invité Jean-Gabriel Ganassia. Ce sera dans quelques minutes. Mais auparavant, notre web stratégie avec Lila Megrawa. Et on va s'intéresser à Facebook et aux startups et aux mobiles aujourd'hui.
Mais oui.
Lila.
Figurez-vous qu'on pourrait plus ou moins dire l'histoire d'amour entre Facebook et les startups s'écrit d'abord avec et par et pour,
le
mobile. Alors pour en parler, on a le plaisir d'avoir Julien Lezécher. Bonjour.
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 Alors Julien, vous êtes responsable plateforme mobile Europe chez Facebook. Alors vous avez annoncé il y a une semaine ou deux, il me semble, des chiffres assez bluffants concernant le mobile. Facebook aurait séduit la moitié des Français avec une connexion d'au moins une fois par mois. Donc 30 millions d'utilisateurs actifs, dont 24 millions à utiliser Facebook sur un smartphone ou sur une tablette. C'est assez bluffant. Vous avez lancé différents programmes pour encourager tout ça, également auprès des startups, FB Start, Audience Network. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces programmes dans le détail?
Alors, revenons d'abord sur les chiffres. Effectivement, 30 millions de Français se connectent à Facebook chaque mois, 24 millions sur la partie mobile chaque mois. Mais encore plus intéressant, il y a 17 millions d'entre eux qui se connectent chaque jour via leur mobile. Donc en fait, l'engagement sur mobile est beaucoup plus important que juste sur le PC.
Donc ça fait quoi? Ça fait un Français sur quatre, pratiquement.
Sur mobile uniquement.
Ouais, c'est fou.
Et en fait, ce qui est également partie intégrante de notre vie chez Facebook, c'est cette transformation du web vers le mobile. Et on l'a vu par les rachats Instagram, on a 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et il y a quelques jours, on a annoncé également WhatsApp avec 900 millions d'utilisateurs mensuels. Et là aussi, ce sont des boîtes qui sont nées dans le mobile et qui se sont développées dans le mobile et qui ont contribué à cette transformation web vers mobile chez Facebook.
D'ailleurs, c'est étonnant que vous preniez l'exemple d'Instagram, mais Instagram sur le web n'existe pratiquement pas. Enfin, c'est un site où on peut regarder des photos, mais ça n'a pas de sens, en fait. Le sens d'Instagram, c'est sur mobile ou sur tablette.
Effectivement, c'est avant tout, en fait, cette transformation d'applicatif. Et lorsqu'on regarde en fait le marché global de l'accès à Internet, pour la première fois l'année dernière, il y a eu plus d'accès à Internet via mobile que via PC. Et ce n'est pas un changement anodin. Parce que la consommation d'Internet sur mobile, elle n'a rien à voir avec le PC. Sur le PC, on lance son navigateur, on accède à Internet. Sur le mobile, on lance des apps. Et en fait, il y a eu un rapport qui a été publié la semaine dernière par Yahoo, via leur agence d'analytics qui s'appelle Flurry. 90% du temps passé sur mobile est passé sur des applications. Et 20% de ce temps-là est passé sur des applications de la famille Facebook. Que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp, ou évidemment que ce soit Facebook. Donc ça fait vraiment une vraie révolution dans la manière dont les gens interagissent avec leur téléphone et avec l'accès à Internet.
Donc sur d'où cet intérêt, d'où le fait d'insister sur le mobile dans votre proposition d'accompagner et à la fois d'innover avec les startups.
Exactement. On est une boîte de partenariat. Depuis le début, en fait, Facebook est une boîte de partenariat. Facebook a été lancé en 2004. En 2007, on annonçait la plateforme Facebook, d'abord sur le monde du web. Vous avez certainement reçu des invitations Candy Crush, vous avez certainement joué à Candy Crush. Et on a eu beaucoup de succès d'abord avec les éditeurs de jeux vidéo dans ce monde-là. On est devenu la première plateforme de jeux au monde avec plusieurs centaines de millions de joueurs mensuels. Et en fait, avec cette transformation mobile, eh ben, on a adapté nos outils à destination des développeurs d'applications. Et très rapidement, en fait, on a étendu le champ des partenariats non seulement aux jeux sur le monde du mobile, mais également au monde du travel avec Airbnb, Uber, Spotify dans le monde de la musique et plein d'autres. Toutes ces applications-là, en fait, elles travaillent avec nous. Quand vous loguez sur Uber, ils vous proposent du login avec Facebook. Quand vous loguez avec Spotify, ils vous proposent du login avec Facebook. Donc en fait, on a vraiment étendu à l'ensemble de nos partenariats, à l'ensemble du monde mobile. Et évidemment, il y a beaucoup de Français dans ce cas-là. Des gens comme BlaBlaCar qui ont annoncé une superbe nouvelle il y a quelques jours. Lorsqu'ils se lancent en Turquie, ils l'ont fait, c'était en décembre de l'année dernière, ils le lancent et pour faire un sign-up sur leur application, c'est login Facebook obligatoire. Pour des questions tout simplement de confiance, puisque le covoiturage, ça repose quand même sur la confiance.
Est-ce que parmi tous ces exemples que vous avez cités, certains ont souscrit à ce programme d'FB Start ? Parce que pour représenter à la fois, vous accompagnez les startups early stage, en phase d'amorçage, et d'autres beaucoup plus avancées dans leur développement. Quel type d'accompagnement vous leur proposez ?
En fait, on a une fusée à trois étages. Donc en gros, on a vraiment une équipe qui s'occupe d'identifier et de travailler avec les grosses boîtes. On va en France, les BlaBlaCar, les Deezer, les Sarenza, les showrooms privés, ainsi de suite. Et ensuite, on a mis en place un programme qui s'appelle FB Start, qui a trois niveaux, là encore, avec un niveau pré-lancement de l'application, un niveau bootstrap pour aider les personnes qui viennent de commencer leur activité sur le mobile, et un niveau accelerate. Et à chaque fois, on va leur offrir des ressources gratuites, non seulement des ressources Facebook, ça peut être de la pub, ça peut être du cloud parce qu'on a racheté une boîte dans le monde du cloud, mais ça va être aussi un grand nombre de services édités par des professionnels autour du développement. Donc pour faciliter la traduction d'une application, pour faciliter la gestion du support pour ses clients. Et on a fait des partenariats avec des Salesforce, avec des Stripe, avec beaucoup, beaucoup d'acteurs de cette galaxie-là.
Est-ce que vous auriez un exemple marquant parmi toutes ces startups que vous avez accompagnées ces 18 derniers mois ?
Moi, il y a deux boîtes que j'adore. La première, c'est RAD. Je ne sais pas si vous connaissez RAD. Ouais, c'est du e-commerce pour de la mode éphémère, on va dire urbaine. Et dès le début, ils sont partis à fond sur Facebook. C'est-à-dire que Facebook login, pour, on va dire, sauvegarder son panier d'achat, aller très très rapidement à la commande, du sharing sur Facebook, donc partager ce qu'on souhaite, ce qu'on aime directement sur Facebook. Et là, ils ont levé 2 millions d'euros. Maintenant, ils se développent à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Ils viennent de lancer des campagnes sur Instagram aussi. C'est vraiment un superbe exemple. Autre exemple, Cheers. Je ne sais pas si vous prenez beaucoup de photos avec votre téléphone, mais j'en suis sûr. On a un problème, c'est qu'on les garde stockées sur son téléphone. Et en fait, eux, ils vont simplifier justement l'impression de ces photos-là. Ils ont imprimé déjà plus de 20 millions de photos. Ils viennent de lever 8 millions d'euros. Et on bosse avec eux main dans la main. Évidemment, dans le cadre du programme FB Start, ils bénéficient d'un grand nombre d'avantages gratuits.
Et parce qu'en plus, Facebook est aujourd'hui un média photo incontournable. Voilà.
Exactement.
Donc, si on peut imprimer les photos qu'on partage et qu'on a dans son album, c'est très sympa. Merci beaucoup.
Merci Julien Lezécher.
Voilà l'importance des startups dans le mobile et du côté de Facebook. Et vous restez avec nous. On revient dans un instant, la suite de cet atelier numérique dans une petite minute. On va retrouver donc notre histoire incroyable de robot. Est-ce que demain le robot aura-t-il une âme? Et puis juste après notre World Tour. Et tout à l'heure on reviendra sur les grosses annonces d'Apple avec Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu de Zeronet.com. À tout de suite.